Poussez les portes des laboratoires de recherche avec Sciencez-vous, une série de podcasts dans les coulisses de la science.
Rencontrez des scientifiques des universités de Bretagne occidentale et Bretagne sud ou de l'École nationale d'ingénieurs de Brest.
Sociologie,
géographie,
mathématiques,
océanographie,
chimie ou encore robotique,
Sciencez-vous vous fait explorer toutes les sciences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Dans le premier épisode, on a vu en quoi consistait le projet OSPAPIC. Mais comment est-il organisé, financé? Quels sont les enseignements tirés et quelles sont les perspectives? C'est l'objet de ce deuxième épisode.
Je m'appelle Gabrielle Guichère et je suis la responsable administrative et financière du programme de recherche OSPAPIC, qui est hébergé au CRBC à l'UBO à Brest.
Alors, je suis Géraldine Leroux, enseignante-chercheuse, professeure des universités à l'Université de Bretagne occidentale, et je suis la PI, c'est-à-dire Principal Investigatrice, donc investigatrice principale du programme OSPAPIC.
Moi, je m'appelle Emma Bourges et je suis doctorante à l'UBO au sein du programme de recherche OSPAPIC et je fais un doctorat d'anthropologie.
Avant de parler comment on organise tout ça, comment on le finance, parce que ça représente quand même un énorme travail, j'ai vu sur l'équipe que l'équipe est très fournie, on va dire, d'OSPAPIC, avec beaucoup d'artistes associés, etc. Peut-être qu'on pourrait un petit peu présenter cette équipe et puis expliquer aussi comment tout le monde travaille ensemble, parce que c'est pas si évident que ça quand on regarde à la base un projet de recherche avec des artistes, des anthropologues, etc. etc. Et peut-être voilà, un petit mot sur comment ça s'articule tout ça.
Oh là là, la question est très large. Alors c'est un sujet qu'on a déjà discuté avec une de vos collègues il y a 2 ans, au moment du lancement d'OSPAPIC, donc peut-être qu'on peut renvoyer aussi vers le podcast qui a été fait. Mais pour répondre à la question, chaque membre scientifique de l'équipe a été recruté pour ses compétences scientifiques, pour en général son expérience préalable, donc ils ont chacun la capacité à travailler en autonomie, en suivant finalement une trame déjà bien établie, qui est donc celle qui a été proposée aux bailleurs, aux financeurs, et qui correspond à différentes hypothèses scientifiques qui sont à tester, également d'observations ethnographiques à conduire. Alors c'est sûr que OSPAPIC s'est ancré dans l'anthropologie sociale et culturelle, mais c'est également une équipe de recherche qui est pluridisciplinaire. Donc on a des historiens, des philosophes, des commissaires d'exposition, des artistes, des gens qui sont spécialistes d'études culturelles et littéraires. Et ensemble, on développe une approche collective de nos sujets. Donc, on a régulièrement des séminaires internes, des réunions d'équipe, mais également des séminaires de recherche ouverts lors desquels sont présentées les avancées de la recherche et ce qui nous permet de dialoguer entre nous, mais également avec d'autres spécialistes des questions.
Et donc, comment fait-on pour financer tout ça? J'imagine que c'est un sacré casse-tête avec énormément de boulot, mais a priori, c'est ton boulot, Gabriel.
Alors oui, justement, un projet de recherche OSPAPIC demande des financements, mais encore plus comme un projet pour PAPIC, le filet fantôme, qui demande une vraie ingénierie de financement. Il s'agit de produire un projet éditorial complexe, à la fois, comme on l'a vu, tactile, illustré et sonore, qui mobilise des compétences artistiques, techniques et scientifiques. À ce jour, nous avons la chance d'avoir déjà obtenu un premier financement de la part d'Océanopolis Act à hauteur de 2000 euros. Et par ailleurs, nous avons encore 2 demandes de financement majeures qui sont en cours. D'abord, une demande de subvention ERC Proof of Concept qui s'inscrit dans la continuité du projet de recherche OSPAPIC. Le dossier met l'accent sur la valorisation des connaissances scientifiques à travers un objet culturel, sensoriel et artistique destiné à un public large. Et nous avons également une demande auprès du Centre National du Livre, le CNL, dans le cadre de leur appel à projet pour la publication d'ouvrages. Ces 2 dossiers demandent une articulation fine entre vision culturelle, impact scientifique et stratégie de diffusion. Il faut détailler les objectifs, les étapes de production, les publics cibles, les coûts précis avec des devis et également les retombées attendues. Et c'est un travail très structurant. Nous continuons actuellement de démarcher des partenaires financiers et des établissements de médiation scientifique et culturelle souhaitant rejoindre notre aventure.
En complément de ce que Gabriel vient de dire, en fait, un grand nombre des actions ont été préalablement financées sur budget européen, sur le financement obtenu. Donc, les salaires des chercheurs sont pris en charge sur le financement européen. Un certain nombre d'actions scientifiques sont couvertes par notre budget. Et ensuite, là, étant donné que la recherche a montré un vrai apport à la fois à la contribution scientifique, mais également aux attentes des publics, eh bien, nous cherchons à lever des financements complémentaires pour diffuser non plus seulement les connaissances scientifiques, mais élaborer un objet culturel.
Et donc, quand on dit financement complémentaire, c'est-à-dire qu'on va, ou plutôt que Gabriel va aller chercher tous les appels à projets potentiels, etc., ou c'est aussi faire appel à du financement privé, pourquoi pas est-ce qu'il faut, d'ailleurs, on demande souvent dans les dossiers de subvention, ce qu'on appelle des subventions croisées aussi. Comment ça se passe, tout ça?
Alors, bien sûr, c'est un travail d'équipe tout au long du démarchage et des recherches. Et bien sûr, nous avons identifié des structures pouvant proposer des appels à projets. Et nous continuons toujours ces recherches-là avec une veille active pour voir qu'est-ce qui peut être proposé, surtout pour l'année 2025, 2026, voire 2027.
En effet, donc on répond à des appels à projets. Certains, parfois, c'est successful. Enfin, on réussit à lever le financement. Puis très souvent aussi, on est débouté. Et puis, on lève aussi, ou en tout cas, on prend contact avec des fonds de dotation, des mécènes privés, parce que aujourd'hui, force est de constater qu'au regard du contexte géopolitique, il est difficile en fait, de lever des financements. Donc, on est obligé aussi de prendre du temps pour aller lever par-ci, par-là, 1 000 euros, 2 000 euros, ce qui va permettre de financer en fait la fabrication et la distribution d'un ou deux exemplaires ou quelques-uns. Parce qu'en fait, comme on est sur un livre unique, entièrement façonné main, établi avec des matériaux nobles et des œuvres d'art intégrées, eh bien, on est sur un coût de fabrication à l'unité qui est très élevé, bien plus élevé qu'un livre classique. Donc, on est vraiment sur un objet unique et derrière, cela veut dire un coût. Donc, pour l'instant, on a la chance d'avoir quelques structures qui nous soutiennent. D'autres, on espère, qui vont nous soutenir. Et puis, on a également des privés qui me disent « Moi, je suis collectionneur, ça m'intéresse beaucoup. J'ai bien entendu que ton livre, c'était principalement... avait vocation à être présenté dans des structures culturelles et scientifiques pour être utilisé avec des médiateurs lors de visites de groupe. Mais parce que j'aime ce projet, parce que je trouve ces matériaux absolument magnifiques ou parce que je veux avoir une œuvre d'art en Gosnet, eh bien, je suis prête à l'acheter individuellement. Donc, on est en train de mettre en place avec la maison d'édition le business plan, comme on dit, pour permettre aussi aux individus qui le souhaiteraient, d'acquérir un des livres. Voilà, mais on sera sur une toute petite série, on est sur moins de 100 exemplaires.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
J'imagine quand on a bénéficié de soutien comme ça sur les projets, forcément il faut communiquer dessus, donc ça en fait partie ce podcast, mais il y a déjà eu aussi un gros travail déjà, il y a le site internet, il y a des vidéos explicatives, il y a encore autre chose, non?
Oui, exactement, la communication autour de Papik est pensée comme une narration progressive vraiment du projet, et on veut que les publics puissent suivre son évolution, comprendre ses enjeux et s'y projeter. Que ce soit comme les lecteurs, les partenaires ou les soutiens. Et nous avons choisi de produire une vidéo déclinée en deux formats, un format long de 5 minutes et un format plus court de 2 minutes, afin de pouvoir communiquer efficacement sur le projet. À l'heure des Reels, Instagram et des vidéos courtes comme TikTok, il nous semblait essentiel vraiment d'adopter une approche visuelle et engageante, capable de présenter à la fois l'univers de ce livre et ses enjeux. Donc Léa Aldeano, qui est notre ingénieure de projet, a conçu un scénario structuré autour d'un storytelling fort, mêlant la recherche, les illustrations et l'accessibilité, pour pour accompagner cette vidéo, nous avons également dédié un espace sur notre site internet. N'hésitez pas à aller le voir. On y trouve donc la vidéo, bien sûr, et également un livret explicatif qui présente tous les détails caractéristiques du projet, ses objectifs, les publics cibles, ainsi que les partenaires associés. Et la vidéo, bien sûr, est également diffusée sur nos réseaux sociaux. Nous utilisons principalement Facebook et LinkedIn afin de toucher des audiences variées et de créer une dynamique de diffusion cohérente. Et nous discutons justement en ce moment de la création peut-être et des intérêts de lancer une page Instagram. Et ce sera un espace ici plus dédié au visuel qui est très présent justement dans Papik et qui sera pensé pour partager des illustrations de ce prototype, des extraits sonores, des détails de fabrication et vraiment créer une communauté sensible à l'esthétique, au toucher et à l'objet livre en lui-même. Et on aimerait proposer des formats courts, immersifs, émotionnels, pour faire ressentir autant que comprendre.
Et donc sur ça, sur la communication, ce que vient de dire Gabriel, ben on comprend qu'en fait, pour Ospapik, il nous faut certes le travail de chercheurs, mais également l'aide ponctuelle d'ingénieurs projets ou de webmasters ou de gens qui sont en capacité à produire ces objets de communication sur lesquels les scientifiques n'ont pas toujours une expertise. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi on cherche continuellement à lever des financements complémentaires. Et puis, c'est aussi la vocation de cette communication, c'est certes de diffuser le message scientifique et environnemental, d'inviter les uns et les autres à prendre connaissance du projet de recherche, mais également de rendre accessible la recherche en SHS, accessible à tout un chacun et aussi aux personnes qu'on va dire qui sont parfois décrites comme des publics empêchés. Donc, comment les gens avec lesquels on travaille, qui sont par exemple des personnes malvoyantes ou non-voyantes, comment est-ce qu'on rend accessible notre site internet? Donc, on a récemment, par exemple, avec l'antenne brestoise de Valentin Haoui, testé notre site internet avec Gabriel. On avait rendez-vous avec eux vendredi dernier pour identifier en fait qu'est-ce qui répond à leur charte, qu'est-ce qui fonctionne avec leurs lecteurs, leurs applications de lecture, etc.
Et comment améliorer vraiment le site web pour se donner une accessibilité.
Et donc, c'est bon, vous avez trouvé les solutions?
Oui, il y a toujours des solutions. Et parfois, il va falloir faire attention. Par exemple, on a pu remarquer que sur certains réseaux sociaux, comme LinkedIn, ce n'est pas du tout accessible pour les logiciels qu'ils utilisent dans cette association pour les personnes non-voyantes. Donc, c'est des logiciels de lecture où, une fois le logiciel lancé, ça va lire la page. Et pour les posts LinkedIn, c'est vraiment très compliqué. Surtout avec, par exemple, l'italique. On va utiliser de l'unicode pour mettre de l'italique, qui est très important dans notre projet de recherche, parce que ça désigne un livre, un ouvrage. Donc, toujours utiliser de l'italique pour Papik, le filet fantôme. Et malheureusement, cet unicode-là n'était pas lu par le logiciel. Donc, il a fallu modifier et on cherche toujours les petits détails comme ça qui ne peuvent pas, parfois qui empêchent une bonne lecture.
Donc, on a identifié, par exemple, ce qui est à modifier, mais cette ingénierie technique, justement, il nous reste à la mettre en place. Et donc, on cherche actuellement un financement pour, couvrir le salaire d'un mois d'un ingénieur projet parce que, justement, on sait que nous, au sein de l'équipe, on ne peut pas le faire. Voilà.
Alors ça fait partie des difficultés, j'imagine, quand on monte un projet aussi gros. On en rencontre quelques-unes. Quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées dans ce projet et surtout comment vous les avez surmontées?
Peut-être la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que notre équipe est internationale, donc il va y avoir du décalage horaire. Et pour organiser les réunions, on va devoir s'adapter parfois avec des horaires très tôt ou parfois très tard. Et donc, travailler sur différents fuseaux horaires. Je pense que ça, c'est une difficulté, mais au final, maintenant, on travaille avec. Et c'est rigolo, justement, de prendre des nouvelles. Alors, à San Francisco, il fait beau aujourd'hui.
Oui, avec des heures, évidemment, pas possible pour les visios, etc.
Exactement. Et l'autre difficulté, ça va être vraiment, et ça, beaucoup de porteurs de projets internationaux le savent, c'est de trouver le bon équilibre entre gestion de la recherche et donc respect du bailleur, finalement, en fait, qui finance quand même le projet de recherche, les contrats de travail. Et à côté de ça, la communication, la gestion au quotidien des petites choses à faire, des relations avec l'établissement, avec les autres collègues. Et voilà. Donc, c'est cet équilibre entre recherche, communication et gestion du quotidien qui n'est pas aisé pour tout un chacun.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Jusqu'ici, quelles leçons vous avez tirées de ce projet, que ce soit à la fois d'un point de vue purement professionnel et des fois peut-être d'un point de vue personnel plus humain?
Peut-être que rien n'est impossible et que on peut toujours apprendre à faire des choses qui parfois ne semblent pas évidentes au début, particulièrement pour mon poste qui est plutôt polyvalent. Là où, par exemple, je ne savais pas du tout coder un site internet, maintenant j'ai pu apprendre un peu plus comment on s'occupe de la gestion d'un site internet. Donc ça, c'est une belle leçon, je pense.
Emma ?
Oui, moi, c'est plus sur du contenu scientifique. Ça fait quelques années que je travaille sur le handicap, mais le doctorat, il m'a vraiment fait me spécialiser sur la cécité. Et donc, au fur et à mesure des ateliers, j'ai rencontré vraiment des profils très différents de personnes mal ou non-voyantes qui avaient des histoires très différentes aussi. Et dès le départ, mon sujet de thèse, c'est de vraiment sortir des médiations qui prônent le visuel et la reconnaissance de forme. Donc, le projet du livre tactile, il était incroyable pour aller plus vers la sensation, le corps, sortir du regard. Et du coup, j'ai été quand même assez marquée par des personnes adultes qu'on a vraiment essayé au fur et à mesure de leur formation de faire voir, en fait, de reconnaître constamment des formes et d'essayer de les adapter à notre propre système visuel. Et du coup, il y a eu une petite anecdote comme ça de Bruno qui buguait, en fait, face à une étoile que les designers tactiles des Doigts qui rêvent avaient représentée tout en matière. Parce que Bruno, il avait été habitué toute sa vie à une étoile à 5 branches. Il avait intégré une vision hyper schématisée de ce que c'était qu'une étoile. Mmh. Et ça, c'était assez marquant de voir qu'il y avait eu ce formatage visuel-là. Et du coup, Solène et Camille, qui travaillent dans la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, m'ont raconté une histoire très jolie de Philippe Claudel, donc, qui a fondé la maison d'édition et qui a travaillé du coup avec beaucoup d'enfants mal ou non-voyants. Et il les a fait dessiner tout un tas de choses. Et il y a une anecdote très jolie d'un enfant qui dessine trois ronds et qui demande à Philippe « qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, c'est un t-shirt. C'est les trois espaces par lesquels on passe les bras et la tête. Et ça, c'est des petits moments assez jolis où on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de poésie dans le fait de fermer les yeux de temps en temps.
Et pour vous, Géraldine ?
Alors, si j'ai appris quelque chose pendant ce projet de recherche, alors qu'il n'en est qu'à ses débuts, hein, puisqu'on n'est même pas à mi-term, ça fait moins de 2 ans qu'on a lancé le projet, et donc il court encore pendant 3 ans. Alors, je ne vais pas le mettre au passé, je vais me mettre au présent, parce que j'apprends continuellement de l'équipe. C'est justement à mettre en place cet équilibre entre les obligations contractuelles, donc les obligations de la recherche à conduire, la manière dont on est aujourd'hui de plus en plus amené à en parler au quotidien. Donc, il faut communiquer sur une recherche, mais sauf que la recherche, elle est en cours. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire, sous quelle forme interrogative on peut l'amener. Et puis, également, cette difficulté qu'il y a vis-à-vis des demandes institutionnelles, de la latence administrative et des éventuelles tensions qu'il peut y avoir entre les pratiques de l'institution hôte, celle qui accueille le projet, et les attentes du financeur européen ou international. Et donc, on se retrouve parfois écartelé entre la gestion de l'équipe, la recherche à produire et puis ce qui est à faire pour l'institution, l'administration. Et donc, on se retrouve aussi à devoir gérer, en tout cas pour moi, pour Gabriel, également Estelle Castro-Cochy qui est la co-directrice, beaucoup d'administratifs et beaucoup trop à notre goût. Et ça, c'est un engagement qui est très difficile à tenir parce que derrière, nous avons l'obligation aussi de mener la recherche.
Mais ça fait beaucoup de casquettes.
C'est ça. D'où la difficulté de parler un lundi matin.
Peut-être qu'on peut se projeter un petit peu sur l'avenir, puisqu'on l'a dit, là, on est à peu près à mi-parcours de ce projet. Quelles sont les prochaines grandes étapes ? Parce qu'évidemment, on ne va peut-être pas tout détailler les 3 ans qui restent, mais on va dire les prochaines grandes étapes.
Bien, actuellement, nous sommes en plein dans le montage du gros colloque international qui va avoir lieu à Tahiti, donc en Polynésie française, à la demande de nos partenaires polynésiens qui nous ont demandé de localiser le projet en Océanie, ce qui va aussi nous permettre de mieux maîtriser notre budget puisque les principaux speakers, donc conférenciers, ceux qui font les conférences plénières, mais également les communicants, seront en Océanie. Et puis, il y aura aussi l'équipe OSPAPIC qui, comme on le disait, est à la fois établie en France, dans les Outre-mer, mais aussi à l'étranger. Donc ça, c'est un gros projet sur lequel Gabriel travaille au quotidien, notamment avec Estelle, pendant que moi, justement, je vaque à d'autres occupations scientifiques actuellement et d'autres montages de projets. Et puis, on aura un très beau projet qui est en train d'être initié, porté par Christophe Roux, qui est un des postdoctorants, qui est spécialiste de théâtre ethnographique et donc qui va co-construire ce projet culturel et scientifique, notamment avec un chef coutumier qui s'appelle Aima Opaule et qui vient donc de Guyane française, en l'occurrence qui est un Wayana, donc dans l'intérieur des terres. Et ensemble, ils vont penser l'activité spatiale telle qu'elle est conceptualisée, pensée, pratiquée au Centre spatial français basée à Toulouse, mais également telle qu'elle est portée et véhiculée, si je puis dire, par le Centre spatial de Kourou. Et ensemble, ils discutent de la façon dont les astres naturels sont de plus en plus soumis aussi à une coprésence d'astres artificiels, en l'occurrence les satellites. On a évoqué les financeurs qui nous soutiennent, comme Oceanopolis Act, qui est un fonds de dotation, mais on peut aussi remercier tous les institutions et les individus qui finalement, tous les jours presque, nous envoient des remerciements, des petits mots qui saluent les ou le projet. En l'occurrence, pour le livre tactile, on a vraiment des retours très positifs, mais pour d'autres projets aussi portés par OSPAPIC. Donc voilà, je tiens à remercier à la fois les financeurs, les individus, mais aussi les services de l'UBO, nos collègues du CRBC qui nous soutiennent beaucoup au quotidien, et également ceux des services liés à la présidence qui, les services comptables ou les RH, nous aident aussi, puisque cette ERC, c'était la première de l'UBO, en tout cas une ERC Consolidator. Donc on apprend aussi tous les uns des autres et au quotidien.
Ah oui, et je pense qu'on peut aussi remercier l'ensemble des participants, parce que je pense qu'on l'a pas vraiment souligné. Géraldine, il me semble que tu as dit que c'était un livre qui avait été créé selon un design participatif, mais du coup, les participants qui sont venus aux ateliers tester les illustrations, apporter leur retour, leur conseils. C'est vraiment quelque chose d'important dans la création de ce livre parce que la médiation telle qu'elle est faite au musée aujourd'hui, c'est encore des ajustements post-production. On a une exposition qui est montée et ensuite on appelle quelqu'un qui est chargé d'accessibilité pour faire quelques modifs pour rendre quelques œuvres accessibles. Là, le livre, il a été co-conçu avec les futurs usagers de ce dispositif de médiation. Et ça, c'est fort.
Oui, et c'est très important de le souligner, effectivement. Comment on retrouve et comment on suit ce projet et comment on suit son évolution ?
Oui, bien sûr, vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook avec notre page OSPAPIC, sur LinkedIn également, OSPAPIC, et notre site internet ospapic.eu.
OSPAPIC avec un K à la fin, on précise.
Voilà. c'est l'acronyme de Ocean and Space Pollution, Artistic Practices and Indigenous Knowledges. Donc en français, pollution des océans et de l'espace, pratiques artistiques et savoirs autochtones.
Alors, merci de l'avoir fait en anglais parce que j'allais me lancer, mais je pense que votre accent est quand même largement meilleur. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois.
Merci beaucoup.
Merci.
Poussez les portes des laboratoires de recherche avec Sciencez-vous, une série de podcasts dans les coulisses de la science.
Rencontrez des scientifiques des universités de Bretagne occidentale et Bretagne sud ou de l'École nationale d'ingénieurs de Brest.
Sociologie,
géographie,
mathématiques,
océanographie,
chimie ou encore robotique.
Sciencez-vous vous fait explorer toutes les sciences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Sciencez-vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U,
Radio Calonne et Radio Balise et avec le soutien financier de l'ANR.